105-250, microfoni di Radio Blackout. Dovremmo essere in diretta con Luisa e Yusfi. Luisa, ci senti? Es que tu nos écoutes? Que tu nous écoutes?
Oui, je suis bien là.
Ah, parfait, parfait. Bonsoir, bonsoir. Merci.
Bonsoir.
Merci pour être avec nous. Alors, ici, nous sommes à l'Université de physique de Touraine et l'université est occupée en ce moment. Alors, je veux te conter que Touraine est peut-être la seule ville d'Italie où les manifestations universitaires de solidarité avec la Palestine ont entraîné le blocage de l'enseignement. Et à l'heure actuelle, les autorités universitaires sont en train de mettre en œuvre un tournant un peu répressif en contre les étudiants. Et oui, ça c'est pour te donner un peu de contexte. Et maintenant, tu peux écouter la voix de ceux et celles qui restent dans la lutte ici. Occupanti di fisica, un saluto.
Ciao.
Très bien.
Ciao tutti.
Alors, on te pose quelques questions et après chaque question, on prend un morceau de temps pour faire la traduction en italien. Ça va?
Très bien.
Allora, la prima cosa che chiederò a Luisa è che cosa intende con militanza decoloniale e come la questione della Palestina si colloca alla genesi di questa linea politica. Luisa, je vais te traduire. Alors, qu'est-ce que tu entends avec les mots militantisme décolonial et comment la question palestinienne se situe-t-elle dans la genèse de cette directrice politique? On peut commencer avec un discours plus général, puis un focus spécifique sur les cas français, ou autrement partir des exemples pour s'approcher à la théorie.
D'accord, bon, moi je dis, alors je peux parler de l'expérience française, en tout cas le mouvement décolonial dans l'expérience française, c'est, alors excusez-moi parce que là il y a un peu de bruit, j'attends un petit peu qu'il y a un monsieur qui passe avec sa valise, bon voilà, le mouvement... décolonial en France, il s'est caractérisé par le fait qu'on ait relié la question du racisme à des instances institutionnelles et que c'est plus seulement le racisme interindividuel en fait qui nous intéresse, mais le racisme étatique et le racisme structurel en fait. Donc ça, c'est une des premières particularités et aussi la manière que nous avons eu de politiser. L'antiracisme, c'est de l'adosser, de le relier de manière intrinsèque à la question de l'impérialisme, puisque ces deux choses sont liées. Et donc, c'est comme ça que la question palestinienne s'articule naturellement dans le champ décolonial.
Juste un moment, on va traduire ça.
Inizio, diciamo... a dirvi come il movimento decoloniale si è caratterizzato nell'esperienza francese, quindi si è, come dire, indirizzato subito verso un razzismo istituzionale e il modo in cui abbiamo cercato di politicizzare la questione dell'antirazzismo legandola a quella dell'antiimperialismo.
Oui, vas-y.
Et donc, en fait, nous, on a l'habitude de dire les populations issues de l'immigration post-coloniale, on a l'habitude de dire que notre condition ici en France n'est pas sans rapport avec ce qui se passe en Palestine parce que ce sont les mêmes, le même rapport colonial qui relie les Palestiniens des Arabes et des musulmans en France. Et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en fait, nous avons les mêmes oppresseurs, en fait.
Dunque noi abbiamo pensiamo che diciamo la condizione delle popolazioni postcoloniali o con un background diciamo migratorio in Francia vivono una condizione che ha un rapporto con quello che succede in Palestina, perché in qualche modo le stesse caratteristiche o le stesse discriminazioni che vivono le popolazioni arabe o islamiche in Francia sono quelle che vive anche la popolazione in Palestina.
Sì, e dice quello che le accomuna è l'oppressore. Oui.
Et donc, en fait, on a, parce que nous, les populations noires et arabes de France, on est issus de l'histoire coloniale, donc on sait reconnaître un pouvoir, une domination coloniale, mais on sait aussi que cette domination, elle continue encore de nos jours. Notamment aussi en France, puisqu'elle continue de hiérarchiser la population en fonction de son appartenance à la blanchité, en fait.
Dunque, noi crediamo che la popolazione, le persone nere, arabe in Francia, subiscano ancora derivano la loro storia e la loro condizione dalla storia coloniale in Francia, quindi sono ancora sottoposte a un potere coloniale e che in Francia ci siano ancora dei dispositivi di gerarchizzazione appunto legati alla storia coloniale del paese.
Voilà, et cette matrice qui est la matrice en fait du suprémacisme blanc, de l'impérialisme et du capitalisme, cette matrice-là, elle est reconnue de manière spontanée par les masses arabes en France et par les quartiers populaires, puisque la Palestine, c'est vraiment l'axe de lutte qui mobilise le plus les quartiers populaires en France et les populations arabes. C'est cette lutte-là, cette lutte ou celle des violences policières qui font descendre dans la rue de manière massive les populations issues de l'immigration. C'est assez rare en fait de voir les populations issues d'immigration qui descendent dans les rues et qui s'engagent politiquement. Sur la question de la Palestine, le rendez-vous il est toujours honoré et c'est ce qui rend aussi en France la question si sensible, puisque pour du point de vue de l'État français, comme nous on est des populations dangereuses, on est des populations à contrôler, à surveiller. Du coup, le mouvement pro-palestinien en France est extrêmement réprimé. Il faut savoir que toutes les manifestations depuis le 7 octobre, elles ont été interdites pour la Palestine en France, qu'il était interdit de porter un keffieh palestinien dans la rue, c'est-à-dire qu'on pouvait être verbalisé, avoir une amende parce qu'on avait un keffieh palestinien dans la rue en France. Et là, en fait, il y a eu une intensification de la lutte pro-palestinienne en France que depuis quelques semaines, parce que la gauche a décidé de soutenir les manifestants et que donc elle a rendu possible et elle a fait autoriser les manifestations.
Allora, sì, dice che la matrice del suprematismo bianco e capitalista è riconosciuta in maniera spontanea nelle masse della popolazione araba e dai quartieri popolari. In questo contesto la Palestina è l'asse di lotta che mobilita di più le classi popolari in Francia, che sono quelle classi che di solito si mobilitano contro le violenze della polizia ed è raro che invece si ingaggino politicamente su altre cose, mentre invece sulla Palestina c'è molta reattività, si onora la Palestina, la popolazione è molto sensibile a questa causa quando la stessa popolazione viene riconosciuta come pericolosa da controllare, da sorvegliare, e lo stesso movimento pro-Palestina viene molto represso. Tutte le manifestazioni dopo il 7 ottobre sono proibite, è proibito portare la kefia, e in queste ultime settimane diceva che c'è stata un'intensificazione delle manifestazioni a favore della Palestina in Francia, perché la sinistra ha deciso di sostenere i manifestanti. Tanti. Ok, tu peux continuer?
Oui, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, ce qui a changé actuellement au niveau des manifestations pro-palestiniennes en France, par rapport notamment aux grandes manifestations pro-palestiniennes en 2014, parce que vous vous souvenez, il y avait en 2014 une grande offensive sur la bande de Gaza par l'armée israélienne qui avait occasionné énormément de morts, et il y avait eu des manifestations dans toute la France. Ces manifestations, elles avaient été durement réprimées, et surtout... la gauche n'avait pas soutenu les manifestants. Il n'y avait que des populations, des quartiers populaires, des populations issues de l'immigration, et les mouvements décoloniaux. C'était nous, essentiellement nous, les mouvements décoloniaux, qui étions présents sur le terrain de la lutte pro-palestinienne. Aujourd'hui, en 2024, il y a quelque chose qui a radicalement changé, c'est que nos manifestations aujourd'hui, elles ne sont plus composées uniquement de Noirs et d'Arabes. Aujourd'hui, on a la gauche, déjà la gauche blanche, elle nous soutient. Il y a la gauche de la France insoumise, en fait, de Jean-Luc Mélenchon, a fait quelque chose de tout à fait nouveau historiquement, c'est qu'elle s'est solidarisée de manière, comment dire, radicale sur nos questions. Elle s'est alignée sur la radicalité des mots d'ordre qui sont portés par le mouvement décolonial. Mais ça, c'est grâce à un rapport de force que les mouvements décoloniaux ont réussi à imposer depuis une décennie. Donc, on a, si vous voulez, on a réussi, je dirais, à recomposer la gauche et à la radicaliser sur nos questions à nous. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a des manifestations encore plus denses. Elles sont moins réprimées, puisque aujourd'hui, c'est plus les populations que issues de l'immigration. Donc, elles sont plus protégées. Et surtout, elles sont composées de manière sociologique. Maintenant, elles sont composées aussi... de populations de blancs, en fait, ou d'étudiants, de jeunes étudiants, parce que nous aussi, on a eu des occupations d'université, et ça, c'est tout à fait inédit, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont pas du tout issues de notre tradition décoloniale, qui aujourd'hui emploient des mots d'ordre extrêmement radicaux sur la question de la Palestine, et ça, pour nous, c'est vraiment une avancée historique sur le plan de la solidarité pour la Palestine.
Dunque, quello che è cambiato in Francia oggi in queste manifestazioni per la Palestina rispetto alle grandi manifestazioni del 2014 è che le manifestazioni del 2014 erano state represse con violenza dalla polizia. Perché la sinistra francese non aveva sostenuto quelle mobilitazioni, ed erano mobilitazioni fatte soltanto, diciamo, dai movimenti decoloniali. Oggi è cambiato qualcosa, perché anche la sinistra bianca, diciamo, della France Insoumise, solidarizza in modo esplicito con queste manifestazioni e si è allineata soprattutto anche in termini di radicalità con i movimenti decoloniali. E questo perché c'è stato un decennio, diciamo, di politica che ha cambiato i rapporti di forza e che ha fatto sì che la sinistra si allineasse e si radicalizzasse su questi temi. Questo significa che nelle manifestazioni per la Palestina oggi c'è una composizione molto diversa, una composizione proprio sociologica che vede... in piazza non solo arabi e neri, ma anche giovani studenti, persone bianche, e questo fa sì che in queste manifestazioni ci sia meno repressione e comunque una solidarietà anche da parte della sinistra, soprattutto appunto della France Insoumise.
Bien, pour revenir à ce que je disais au début, juste un mot. C'est qu'il faut se dire que le mot d'ordre que nous avons ici, vraiment ce qui se dit constamment, c'est que ce n'est pas nous qui allons libérer la Palestine, mais c'est la Palestine qui va nous libérer.
E la nostra parola d'ordine oggi, quello un po' come dire un motto che ci accomuna, è che non siamo noi, appunto, non siamo noi francesi a liberare, non saremo noi a liberare la Palestina, ma è che è la Palestina che in qualche modo ci libererà.
Bien, alors si tu as terminé sur cette première question, on va te poser la deuxième, ça va?
Oui, oui, oui.
Oui, je vais parler en italien et depuis, ainsi la question sera compréhensible pour les gens qui nous écoutent et depuis on va traduire, ok?
D'accord.
E, allora la domanda che vorremmo fare a Luisa adesso, dopo questo quadro diciamo generale, anche sceso nello specifico sulla solidarietà alla Palestina, all'interno del libro di Luisa, Restare Barbari, Reste Barbar, che è edito in Italia da Deriva a Prodi, che in un altro testo diciamo abbastanza fondamentale della teoria decoloniale francese, cioè i testi di Uriah Buteljà, è centrale, diciamo, l'invito rivolto soprattutto alla popolazione razzializzata delle periferie francesi a restare barbari, cioè a restare ingovernabili, a sottrarsi, diciamo, ai dispositivi, no, di integrazione forzata rappresentati dalla Repubblica e dall'identità repubblicana. Questo si traduce anche nella diserzione del voto, cioè nella non partecipazione, diciamo, al processo elettorale, perché si dice esplicitamente votare in Francia è votare bianco, no? Cioè il voto è riconosciuto come in qualche modo un dispositivo che non fa che confermare la supremazia dello Stato integrale razziale. La domanda per Luisa è se, diciamo, alla luce di questi, anche di questi ultimi sviluppi e anche dei risultati delle recenti elezioni europee, che hanno visto una crescita significativa dell'opzione del Front National, quindi dell'opzione di una destra xenofoba e razzista, c'è diciamo un superamento di questa posizione, c'è un tentativo, diciamo, di alleanza, di proposta per quella che sembra essere, diciamo, la scommessa delle sinistre, cioè quella della creazione di un fronte popolare che si possa in qualche modo contrapporre alla destra.
Oui, je vais te traduire. Alors, dans ton livre, comme dans celui de Ruria, on trouve l'appel adressé aux peuples racialisés et banlieusards à rester barbares, c'est-à-dire ingouvernables. Il a déserté la votation comme un dispositif qui ne fait que confirmer la suprématie de l'État intégral racial. Cet appel, comme peut être concilié et rejoignait la formation d'un front populaire pour s'opposer au consensus que les forces fascistes et des droits reçoivent dans les mêmes quartiers populaires. Est-ce que tu as compris la question?
Non, en fait, il y a des éléments que je n'ai pas très bien entendus, désolée.
Ok, la question c'est que comment on peut concilier l'appel à rester barbare avec l'autre appel de rejoindre les fronts populaires ou de créer des alliances avec la gauche française?
Oui, bah alors, nous c'est simple, c'est que on pense toujours en fonction de la conjoncture, c'est-à-dire que on n'a pas de position dans l'absolu, c'est-à-dire évidemment qu'on a un horizon, on a un horizon. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, bien sûr.
Ah oui, non, mais c'est parce que j'avais un problème, j'ai cru que ça s'était arrêté. Nous, je veux dire, en tant que militants qui appartenons à une tradition de pensée, on a effectivement un horizon idéal, un horizon régulateur, donc dont la formule rester barbare pourrait incarner cet horizon, enfin en tout cas le condenser la formule. Mais cet horizon là il doit pas nous empêcher d'être stratège et d'être tacticien, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut penser aussi en termes de rapport de force, en termes de situation, en termes de conjoncture. Et donc là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas d'être fidèle à notre horizon régulateur, c'est-à-dire que là il faut permettre les conditions les plus optimales pour ensuite pouvoir continuer à élaborer notre programme, en tout cas à parvenir à cet horizon-là. Et là, il se trouve que ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une situation qui est historique en France, c'est qu'on est au bord d'un basculement fasciste. On est au bord d'un basculement fasciste. Pour nous, notre responsabilité, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, on sait que demain, si le Rassemblement national a la majorité à l'Assemblée nationale, d'abord pour nos luttes à nous, c'est un coup extrêmement dur. C'est-à-dire qu'il y a de très fortes chances, par exemple, que tous nos mouvements soient dissolus, qu'on soit traqués, que cette opposition-là n'existe plus, parce qu'on est vraiment la cible prioritaire de ces gens. Et donc là, c'est une question de survie, c'est-à-dire que maintenant, de manière tactique, on doit déjà effectivement faire barrage, mais pas seulement pour faire barrage, c'est pas juste un vote d'opposition, parce qu'il se trouve qu'au sein du Front populaire, effectivement, le Front populaire, c'est un compromis. Il y a des choses qui ont été, comment dire, c'est le résultat d'un compromis. Donc il y a des choses qui nous ne nous plaisent pas. Il y a des reculs à certains endroits, mais en vérité, on sait qu'à l'intérieur de ce Front populaire, il y a cette force qui est la France insoumise, et la France insoumise a été la seule force de gauche qui a réussi à porter une ligne de rupture au sein de du Parlement, ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'ici. Et donc nous, notre stratégie, elle est double, elle est à la fois, c'est-à-dire que ça ne s'oppose pas, elle est à la fois de dire sur le temps court là, nous notre intérêt c'est de défendre le Front populaire. Pourquoi ? Pas parce que du coup, si le Front populaire gagne, du coup, on sera heureux, mais c'est qu'on préfère les avoir eux comme adversaires au pouvoir. C'est des adversaires qui sont plus enviables.
Oui, oui, c'est clair.
De les avoir eux que d'avoir des fascistes, en fait. Au moins qu'on puisse se battre à la loyale, quoi. Les fascistes, il n'y a pas de bataille à la loyale. Ça veut dire que demain, on n'est plus là, quoi. On n'existerait plus.
Oui, Luisa, pour notre côté, c'est très clair. On va traduire en italien.
Oui, pardon.
Allora, la risposta è semplice. Noi ragioniamo e pensiamo in funzione della congiuntura, non abbiamo delle posizioni assolute. Ovviamente come militanti abbiamo un nostro orizzonte ideale, una nostra idea appunto di fondo, ma dobbiamo ragionare nel contesto, essere, diciamo, avere una strategia, avere una tattica, ragionare in termini di rapporti di forza. Per come dire, costruire le condizioni per portare avanti il nostro programma. Oggi siamo di fronte, diciamo, a una possibile deriva fascista, e questo per noi, come dire, per il nostro movimento, questo pone una questione di sopravvivenza. Quindi la nostra adesione, diciamo, il nostro supporto al Fronte Popolare non è solo una questione di opposizione, cioè non si tratta solo di fare appunto opposizione a questa deriva fascista. Ovviamente dobbiamo fare dei compromessi per stare nel Fronte Popolare, ma all'interno del Fronte Popolare c'è comunque una forza importante, che è quella della France Insoumise, che comunque è stata una forza che ha prodotto una rottura. Per dirlo molto semplicemente, noi abbiamo una doppia strategia. Dobbiamo difendere, diciamo, questo Fronte Popolare per scegliere in qualche modo il nostro nemico, nel senso è comunque meglio avere un nemico leale che non un nemico come appunto i fascisti, che non sono un nemico leale e che mettono in discussione la sopravvivenza stessa del nostro movimento.
Voilà, très clair, merci.
Est-ce que tu dois ajouter quelque chose?
Non, simplement, oui, je rajouterais que notre soutien à l'initiative du Front populaire, c'est pas un renoncement à l'autonomie de la lutte décoloniale. C'est-à-dire que nous, on appelle à voter pour eux, mais en même temps, on continue à développer nos organisations décoloniales à nous. C'est-à-dire que s'il y a pas de fusion, il y a pas d'adhésion à notre endroit. Et d'ailleurs, nous, on pense que si, par exemple, une force telle que la France Insoumise a réussi, enfin, a, c'est comment dire, c'est radicalisé et a réussi à porter une ligne de rupture, c'est précisément parce qu'il y a des organisations comme nous dans la rue qui avons imposé un rapport de force. Et donc on doit continuer à l'imposer, ce rapport de force, dans la rue, en toute autonomie, etc. Et après les élections, comment dire, après les élections législatives, dès le lendemain, peu importe qui gagnera, nous on appelle tout de suite à être dans la rue. Ça, c'est-à-dire qu'il faut continuer, en fait. C'est pas la fin, ça veut pas dire que si le Front Populaire gagne, bon bah du coup ce sera notre président, on leur fera confiance. C'est-à-dire que non, on sera encore en lutte contre eux, mais ce sera de meilleurs ennemis, en fait. Là, on se choisit nos ennemis, en fait. On se choisit une meilleure configuration de lutte.
Sì, beh, aggiungo soltanto che diciamo il nostro supporto al Fronte Popolare non implica una rinuncia alla lotta decoloniale. Noi votiamo a supporto per il Fronte Popolare, ma continuiamo anche a portare avanti la nostra lotta decoloniale. E dopo le elezioni sarà soltanto un inizio per continuare, continueremo a essere nella strada per continuare a lottare. E noi semplicemente, come dire, scegliamo il nostro nemico.
Sì, si stanno scegliendo il nemico. Bon, allora je te pose la troisième question et puis on voit si quelqu'un décide de l'occupation ou quelque chose à ajouter ou des autres questions qui on va traduire. Alors la troisième, je vais la poser en italien avant. E allora mi interessava parlare un po' di quello che comporta a livello soggettivo la scelta di una militanza politica che sia antirazzista, antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista. Il problema infatti di chi dal punto di vista decoloniale incarna il ruolo di complice dell'oppressione è constatare l'assenza di un movimento che sia in grado di rendere un senso di colpa psicologicamente vissuto in un'azione trasformativa e quindi in un'azione politica. Questa cosa si è un po' incrinata con l'intifada studentesca per la Palestina, infatti qua siamo in presenza di studenti e studentesse che hanno momentaneamente sospeso la loro vita, le loro carriere di studio perché non riescono a manifestare indifferenza rispetto a ciò che accade nella striscia di Gaza, ma stiamo parlando comunque di una minoranza che si scontra con il personale accademico e con i docenti. Quindi quello che vogliamo chiedere a Luisa è con questi presupposti come si fa a far progredire il discorso e la lotta decoloniale al di là di un appello alle coscienze individuali e al di là della chiusura in gruppi identitari ristretti che poi sono facilmente perseguibili dalla repressione. Je t'ai traduit, alors je voudrais parler de la choix des militantismes antiracistes, antiimperialistes, anticoloniales et de ses conséquences sur les plans subjectifs. Les problèmes de celui qui, la plupart de nous aussi, les problèmes qui se posent du point de vue décolonial pour ceux qui incarnent les rôles des complices de l'oppression constater l'absence d'une action transformatrice de type politique. Cette chose s'est un peu effondrée avec l'intifada pour l'intifada étudiante, l'occupation des universités pour la Palestine. En fait, il y a ici des gens qui ont momentanément suspendu leur vie et leur carrière d'études parce qu'ils ne peuvent pas rester indifférents à ce qui passe à Gaza. Mais nous parlons d'une minorité entre la population étudiant et des professeurs et du reste de l'université. Alors la question que je te pose est comment les discours et la lutte décoloniale peuvent progresser au-delà d'un appel aux consciences individuelles au-delà de la fermeture à un groupe identitaire serré et très ciblé par la répression.
Juste, excuse-moi, juste, j'ai tout compris, mais j'ai pas entendu le au-delà de quoi ? Au-delà de?
Au-delà d'un appel aux consciences individuelles, comme que c'est la mer, c'est qu'est-ce qui se passe, et si tu es un être humain, tu dois percevoir cette chose. Alors c'est comme une question de moralité psychologique individuelle des gens, et au-delà de l'approcher cette question entre des groupes qui sont petits, qui sont identitaires, qui sont serrés et qui ne peuvent pas comme créer une hégémonie sur ce thème avant que la répression les cible.
Est-ce que c'est compris? Moi, je pense que en tout cas en France, cette question, elle est déjà entendue et pensée comme une question politique, hein, même par ceux qui s'engagent. C'est-à-dire que comme il y a en France des groupes, une pensée décoloniale qui est extrêmement fournie, qui est extrêmement structurée. Il y a toute une littérature quand même qui a été produite en 25 ans, puisque le mouvement décolonial en France, il a 25 ans. On est né il y a 25 ans. Donc, il y a déjà un arsenal théorique, analytique et politique qui a pensé cette question, la question de la Palestine, et qui a aussi pas fait que la pensée, qui l'a traduite en termes de mobilisation, puisque ce sont les mêmes qui écrivent les livres et qui ont aussi organisé ces mobilisations. Et donc, pour l'instant, je veux dire, depuis historiquement, toutes les manifestations pour la Palestine, elles n'ont jamais été des manifestations humanitaires. Elles n'ont jamais été des manifestations le droit, je sais pas, de chaque humain à vivre. Elles ont toujours été reliées à la question du colonialisme, de l'impérialisme et du racisme. Là, ce qui se passe maintenant avec l'intensification de la lutte, c'est-à-dire qu'on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, mais de mon point de vue, je ne vois pas qu'elles nous rejoignent sur des bases humanitaires, elles nous rejoignent sur des bases politiques. Il faut savoir qu'il y a des les organisations, en fait, existent. Et donc, elles sont pas si groupusculaires que ça, même si ça reste effectivement des petites organisations. Je veux dire, au regard d'autres, au regard des partis politiques, évidemment que c'est des petites organisations, mais qui ont une force de frappe et une force d'influence qui est quand même extrêmement fort. Hein, parce que en France, on est un peu sorti de la logique des partis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collectif décolonial a presque autant les moyens de faire descendre dans la rue du monde qu'un grand parti politique, en fait. Il y a une influence très forte du travail décolonial en France. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est vrai qu'on est peut-être, on a l'air d'être réduit à un mouvement d'influence parce qu'on n'est pas au pouvoir, quoi. Mais quand même, il faut voir ça au regard de d'où on partait il y a 25 ans, quoi. Il y a 25 ans, simplement, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on n'y avait pas. Il y avait ce territoire politique est l'antiracisme. N'existait pas du tout.
Lui, c'est juste un moment qu'on va traduire.
Oui, pardon.
Donc, je dirais qu'en France, la question est déjà capita et vissuta comme une question politique. Tenete conto che in Francia c'è un pensiero molto strutturato che ha ormai 25 anni di storia. Ci sono 25 anni di movimento decoloniale che ha elaborato un arsenale teorico e politico che si è appunto anche tradotto in una pratica politica. Le manifestazioni per la Palestina non hanno mai una caratterizzazione umanitaria, appunto moralistica, ma sono sempre legate in modo politicamente esplicito alla questione del razzismo, dell'imperialismo, del capitalismo. Oggi assistiamo, un'intensificazione sia quantitativa che qualitativa di queste mobilitazioni. Ci sono più persone, ma non è un'intensificazione su base umanitaria, e questo lo si deve appunto al lavoro politico di 25 anni dei movimenti decoloniali. È vero che ci sono tante organizzazioni, magari anche piccole, ma non le definirei organizzazioni identitarie, sono tante organizzazioni che hanno una forza di di influenza, ovviamente siamo usciti dalla logica di partiti, non sono partiti, ma queste organizzazioni hanno una forza di mobilitazione, hanno la capacità di portare tantissime persone nelle manifestazioni.
Sì, diceva appunto che non, in Francia non ci sono state delle manifestazioni che sono state umanitarie rispetto alla questione della Palestina. E niente, insomma, ci invitava, come dire, a ricordare che c'è un oltre a queste organizzazioni, c'è un fiorire di organizzazioni, anche una produzione intellettuale, analitica molto, molto forte. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, c'est bon.
Ok, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut te poser des questions ici, parce qu'on est en train de faire un petit débat et il y a des personnes, des étudiants qui sont ici à l'occupation, qui sont en train de t'écouter.
D'accord.
Ciao. Mi ha fatto innanzitutto molto piacere sentire quanto è stato detto e volevo porre una domanda, in realtà è una questione che un pochino mi assilla, e quando molto spesso ci ritroviamo magari a fare dibattiti, a creare movimenti o a creare, organizzarci diciamo, quello che si vede qua in Italia è che fondamentalmente i gruppi magari di militanti o gruppi che vogliono prendere posizione, diciamo così, non ci sono gruppi che non si professino antirazzisti fondamentalmente, però personalmente vedo più o meno gruppi molto simili di persone e mi chiedo quanto questo innanzitutto da cioè, le origini le posso immaginare, però non so come spiegarmi, non so quanto questo derivi da un'origine razzista effettivamente oppure di letteralmente affinità tra gruppi, come si diceva prima, quindi gruppi identitari che non riescono a convergere per una questione anche di abitudine a stare insieme. Quindi se in Francia fosse differente o se sia una cosa solo localizzata qua in Italia.
Oui, alors j'essaie de traduire la question qui une camarade a posée, que c'est beaucoup touchant pour elle. Ce qu'elle voit ici en Italie, est-ce que à faire des débats et à s'organiser dans les mouvements, il y a des groupes militants qui prennent position et qui appellent eux-mêmes antiracistes. Mais ces groupes, ils sont très similaires entre eux. Et ils sont très blanches aussi. Et alors, la question est pourquoi est-ce que ça découle d'une origine raciste ou plutôt des affinités entre eux? Est-ce qu'il y a en France ce type d'identitarisme groupal qui ne réussit pas à faire des convergences ou il est plutôt différent?
En fait, je pense qu'il y a une différence de toute façon avec l'Italie, c'est qu'en France, déjà, les Noirs et les Arabes, on représente une force démographique, avant d'être une force politique, on représente une vraie force démographique. C'est-à-dire qu'on a une présence très forte. En France, on est implanté, on appartient à la deuxième, troisième, quatrième génération. Donc on est des Français, on est, je veux dire, alors que l'Italie c'est assez récent, il me semble hein, que c'est pas un pays où déjà les migrants veulent rester, c'est plutôt un pays où on passe, où on ne reste pas, et que c'est un phénomène assez nouveau pour vous, que la génération de ceux qui sont nés en Italie en étant en étant les enfants de migrants, en fait, de personnes qui n'étaient pas en Italie. Donc ça, c'est quelque chose de... En Italie, qui est nouveau. Donc, en fait, c'est normal, il me semble, c'est normal que vous n'ayez pas une force politique qui émane de ces groupes sociaux, puisque ce groupe social est en voie de constitution. Et donc, il n'a pas encore des intérêts clairs à défendre, parce qu'on ne sait pas exactement... Voilà, il faut définir la spécificité aussi du racisme en Italie, parce que y a des, même si c'est la même matrice entre la France et l'Italie, le racisme c'est la même matrice, mais il y a quand même des spécificités qui demandent d'être affinées, quoi, d'être analysées, d'être vécues aussi. Et en France, en fait, si on a eu la nécessité, comment dire, de faire des espaces autonomes, c'est surtout par rapport à la gauche blanche, parce que la gauche blanche, justement, elle a refusé que la question du racisme soit politisée, parce qu'elle refusait de voir qu'elle était, en fait, qu'elle continuait à traiter les enfants de l'immigration comme simplement, comment dire, des voies électorales à leur disposition, quoi, et sans jamais traiter frontalement cette question-là, quoi. Et en fait, il a fallu attendre que ce soit les premiers concernés pour que la question du racisme soit véritablement prise en charge, soit véritablement politisée. Et donc c'est qu'à partir du moment où c'est vraiment les premiers concernés qui ont dit « Ok, il nous faut des espaces où nous sommes aux manettes, nous sommes les décisionnaires. » En fait, c'est plus possible que ce soit les Blancs qui déterminent aussi les termes de notre lutte, en fait. C'est à nous d'avoir notre propre agenda politique et taillé sur mesure, qui est taillé sur mesure de nos intérêts à nous, de notre spécificité à nous.
Ok, on va traduire.
Mi sembra che ci siano delle differenze tra l'Italia e la Francia. Beh, intanto in Francia la popolazione araba e nera rappresenta anzitutto una forza demografica, ancora prima che una forza politica. Tenete conto che in Francia sono la terza o quarta generazione di diciamo persone che derivano da percorsi migratori. In Italia questo processo è più recente, forse ci sono adesso le seconde generazioni. L'Italia per molti migranti è ancora un paese di passaggio, non per forza un paese in cui le persone vogliono installarsi, e appunto ci sono solo queste seconde generazioni. Mi sembra normale, se teniamo conto questo fatto, che non ci sia ancora una forza politica che emerga in modo, diciamo così, spontaneo da queste seconde generazioni, perché il razzismo ha chiaramente delle caratteristiche comuni dappertutto, ma ogni razzismo poi va analizzato nelle sue specificità, e forse la specificità del razzismo italiano deve essere ancora vissuto, capito e analizzato da quelle persone che lo subiscono. Tenete conto che in Francia i movimenti decoloniali antirazzisti si sono organizzati soprattutto contro la sinistra bianca. Non hanno più accettato a un certo punto che le parole d'ordine dovessero essere stabilite dalla sinistra bianca, e hanno capito di voler politicizzare delle istanze proprie, e questo processo forse in Italia deve ancora darsi.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non.
Ok,
c'est bon.
E qualcun altro voleva chiedere qualcosa a Luisa? Ma non lo so, vedo della titubanza. No, ok. E allora, se non c'è più niente, facciamole un saluto. Bon, alors, merci beaucoup pour...
Merci à tous. Et courage à tous, courage à nous.
Ouais.
Courage à nous, il faut continuer, il ne faut rien lâcher.
Il sert de courage. Merci Luisa, et on se tient au coup.
D'accord, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci. Merci à vous.